Merci. Bonjour tout le monde. Je commence par le bilan de la journée. On a aujourd'hui 29 nouveaux décès pour un total de 150. Donc, bien sûr, on ne s'y habitue pas. Puis, je veux offrir des sincères condoléances aux familles de toutes ces personnes. On a maintenant 9340 cas confirmés. C'est une augmentation de 760. On a 583 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 50. Et on a 164 personnes aux soins intensifs, donc aucune augmentation nette. C'est la bonne nouvelle de la journée, là, parce que comme vous le savez, vous allez le voir d'ailleurs dans les projections qui vont être présentées tantôt par les experts, que c'est ce qu'on surveille le plus, le nombre de personnes aux soins intensifs. Donc, malgré les décès quand même, puis on ne s'habitue pas au niveau décès, il reste que quand même, si on regarde froidement la situation, les hospitalisations puis les soins intensifs, l'augmentation stabilise. Donc, c'est encourageant là, qu'on est en train d'atteindre bientôt le fameux sommet. Mais, même si c'est encourageant, la bataille n'est pas gagnée. Donc, si on veut être capable de retourner progressivement à une vie normale au mois de mai, c'est important de rester très discipliné pendant tout le mois d'avril. Là où c'est plus difficile aussi, puis je pense qu'il faut le dire aux Québécois, c'est toute la situation dans les CHSLD, les résidences de personnes âgées. J'ai demandé qu'on ajoute du personnel, donc des infirmières, des médecins. On a la chance d'avoir moins de personnes que prévu dans nos hôpitaux. Donc, on va pouvoir prendre du personnel qui est actuellement dans les hôpitaux, des infirmières, des médecins, puis les mettre dans les CHSLD, dans les résidences personnes âgées, parce que il y a beaucoup de cas là, dans ces résidences. Puis évidemment, ça reste là, la grande priorité de notre gouvernement, de protéger les personnes qui sont les plus vulnérables à ce virus, donc les personnes âgées, entre autres, de 70 ans et plus. Pour les équipements de protection individuelle, la situation est stable, donc à peu près la même qu'hier. Par contre, j'ajouterais, il y a une préoccupation qui s'ajoute, c'est le matériel pour faire les tests, ce qu'on appelle le réactif, là, pour analyser les tests, ça prend du réactif. Actuellement, on en a pour 6 ou 7 jours, donc on travaille très fort. Je sais qu'il y a une formule qui a été envoyée à Winnipeg, puis que là, on est supposé d'avoir la formule pour pouvoir la faire nous-mêmes. Mais là, ça retarde, et puis bon, on a juste 6 ou 7 jours de matériel pour continuer de faire des tests. Un mot sur les prévisions qui vont vous être présentées, expliquées par des experts tantôt, je pense à 3h30. Bon, vous allez voir, il y a des scénarios. Il y a un scénario plus pessimiste, un scénario plus optimiste. Moi, je voudrais pas alarmer les personnes avec le scénario pessimiste. Là. Vous allez voir, évidemment, quand on regarde le nombre de décès prévus, ça peut être inquiétant. Évidemment, les scénarios ont été faits à partir de l'expérience qui a été vécue dans les dernières semaines dans les pays en Europe, parce que le coronavirus a commencé à se propager quelques semaines avant dans certains pays en Europe. Donc, on se fie sur ces projections-là pour faire des projections au Québec. Donc, évidemment, il y a des pays où c'était très dur, par exemple l'Espagne, l'Italie. Donc, c'est sûr, quand on utilise ces scénarios-là pour faire des projections au Québec, ça peut donner des scénarios où il y a beaucoup de décès. Mais il reste que jusqu'à présent, on est beaucoup plus proche des scénarios où les pays ont été les meilleurs. Donc, on a actuellement, puis là, bon, on est dans la bonne direction, on a beaucoup moins de morts que la moyenne en Europe, toute proportion gardée. Mais il ne faut pas relâcher nos efforts. Il ne faudrait pas que tous les efforts qu'on a faits depuis quelques semaines soient gâchés en changeant ça pour le reste du mois d'avril. Donc, important de respecter les consignes, important aussi de ne pas avoir de rassemblement. Puis là, je vais m'adresser à tous les Québécois on sait tous là, qu'il y a Pâques en fin de semaine. Ça fait partie des traditions au Québec d'aller à l'église, de recevoir sa famille dans la communauté juive, d'aller à la synagogue. C'est très important qu'il n'y ait pas de rassemblement physique. Donc, ce n'est pas le temps de préparer des parties de famille en fin de semaine prochaine. Là. Vous pouvez le faire par vidéo, par téléphone, mais pas physiquement. Là. C'est important cette année. Puis, moi, je compte sur les leaders de toutes les communautés, entre autres religieuses, là, pour passer le message. Il ne doit pas y avoir de rassemblement physique pour aucune fête religieuse. Donc, ça, c'est important que ça soit suivi. Je voudrais maintenant vous parler un peu, parce qu'il semble y avoir une petite controverse, là, qui n'en est pas une, sur le port des masques par les citoyens. Bon, comme l'expliquait le docteur Arruda, oui, ça peut aider d'ajouter un masque pour les citoyens pour éviter de propager le virus. D'abord, il y a trois choses importantes qu'il faut bien comprendre puis bien retenir. D'abord, quand on porte un masque, c'est pas pour se protéger, c'est pour protéger les autres. Deuxièmement, quand on voit que les stocks de masques sont serrés dans les hôpitaux, bien, il n'est pas question là, qu'on prenne des masques N95 ou des masques pour les chirurgies là, pour les citoyens. Il faut laisser ces masques-là pour le personnel de la santé. Donc, on peut se fabriquer d'autres sortes de masques et puis il y a peut-être des gens qui vont en proposer, mais les masques qui sont utilisés dans les hôpitaux, il faut les laisser dans les hôpitaux. Puis, ce qui est peut-être le plus important, puisque le docteur Arruda répète continuellement, c'est qu'il ne faut surtout pas remplacer les autres consignes par le masque. Ça s'ajoute aux autres consignes. C'est pas mal plus efficace de rester loin des autres personnes si on ne veut pas les contaminer que de se mettre un masque. Là. Donc, c'est important de continuer à respecter les consignes. Puis évidemment, dans ces recommandations, le docteur Arruda tient compte de la culture. Ce n'est pas dans la culture des Québécois de porter un masque. Mais ça existe dans d'autres pays. Je me rappelle d'être allé au Japon il y a 15-20 ans. Les gens là-bas, quand ils ont le rhume, quand ils ont la grippe, par respect pour les autres, ils portent un masque. Ça fait partie de leur culture. Mais nous, ça peut avoir l'air étrange là, de voir commencer à avoir beaucoup de monde qui se promène avec des masques. Donc, on tient compte de ça aussi pour dire, bien, concentrez-vous surtout à vous tenir à 2 mètres des autres, lavez-vous les mains, et puis surtout, si vous avez le virus ou vous pensez que vous l'avez peut-être le virus, bien, restez chez vous. C'est la meilleure manière de ne pas contaminer d'autres personnes. Maintenant, mes remerciements du jour. Je veux aujourd'hui remercier les 125 députés de l'Assemblée nationale avec les employés des bureaux de circonscription. Vous ne pouvez pas vous imaginer, là, je parle évidemment à plusieurs, le nombre de citoyens qui vont dans les bureaux, qui appellent aux bureaux de circonscription pour poser des questions. Est-ce que tel programme s'applique à moi? Quel organisme pourrait m'aider? Il y a des organismes qui les appellent aussi, qui disent « ben j'ai perdu des bénévoles, pouvez-vous me trouver des bénévoles? » C'est incroyable le travail qui est fait là, par les 125 députés, tout parti confondu. Et on sert aussi des députés pour remonter l'information qui vient du terrain. Là. Comme vous le savez, 2 fois par semaine, le lundi, le jeudi, je parle avec les 3 chefs de l'opposition qui arrivent avec plein de suggestions. Puis on corrige, on ajuste les gestes du gouvernement en fonction de ce qui vient du terrain par les 125 députés. Donc, je veux dire à tous les députés puis leur personnel, bravo pour le travail que vous faites. Là, c'est très, très, très apprécié par vos concitoyens. Je termine avec nos trois priorités. On ne sort pas de la maison pour le mois d'avril, à moins que ça soit nécessaire. Si vous sortez, vous restez surtout à 2 mètres des autres personnes. Quand on rentre, on se lave les mains avec du savon. Peut-être avant d'aller plus loin, je voulais vous montrer un petit vidéo que j'ai reçu ce matin à mon bureau de comté d'une petite fille de 7 ans qui s'appelle Raphaël.
Monsieur Legault, est-ce que la fée des dents pourrait quand même passer même si on est en confinement?
Donc, la petite Raphaël Merci. Veut savoir si la fée des dents passe pareil malgré le confinement. Donc, je veux dire à Raphaël et à tous les enfants que je me suis assuré que la fée des dents va maintenant être sur la liste des services essentiels. Donc, ça va se poursuivre. Puis, je veux rassurer aussi tous les parents, la fée des dents est immunisée contre le coronavirus. Donc, il n'y a pas de danger. La fée des dents va continuer à faire son travail, Raphaël. Donc, merci pour ta question.
Alors, tout le monde étant rassuré, voulez-vous y aller avec quelques mots en anglais?
C'est cute, ça. La fée des dents qui est sur les services essentiels et elle est immunisée contre le coronavirus. Très bien.
Ben oui.
Ça humanise.
Ben oui, c'est important. Oui. Quand on a 7 ans.
Ben oui, c'est très bien. Alors, ben oui, ça nous touche, hein, ces affaires-là. Qu'est-ce
oui,
que tu
ça
veux?
Fait du bien.
Ben oui. Alors, écoute, on a plus de décès, hein? Faut
29 nouveaux décès pour un total de 150.
Ouais.
On parle de 164 personnes aux soins intensifs, aucune augmentation.
Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est une excellente nouvelle.
Il faut que ça reste comme ça. Une augmentation de 50 pour les personnes hospitalisées. C'est quand même des chiffres là, qui peuvent nous permettre de voir que...
Peut-être. Hein? On commence peut-être à voir la lumière un petit peu.
Et M. Legault a dit quelque chose d'important, je pense, Bernard. Il a dit, si on veut revenir à une vie normale en mai, il faut continuer d'être très discipliné en avril.
Ah oui, je suis d'accord, c'est une phrase clé. D'ailleurs, il nous a rappelé là, les rassemblements de Pâques et tout ça, oubliez ça. Là. Faites ça de façon virtuelle. Il a rappelé les chefs religieux aussi à leurs responsabilités. Toutes les religions, il n'y a pas tout le monde. Là. Les leaders des différentes communautés, vous devez passer le message sur le respect des consignes, pas de rassemblement physique.
Ça inquiète beaucoup les autorités. On peut comprendre. On espère que les gens seront disciplinés là, parce que ça va nous permettre de revenir plus vite.
Question.
Bonjour à vous trois. Dimanche, M. Massé a déclaré que 60 % des décès totaux avaient eu lieu soit en CHSLD, soit en résidence privée pour aînés. Vous avez encore une fois envoyé un message à ce sujet-là, M. Legault. Qu'est-ce qui explique qu'on n'ait pas réussi à protéger les personnes qui vivent dans ces ressources-là? Où est la, je vais mettre des gros guillemets, là, mais la faille? Est-ce que le virus est rentré avec le personnel en raison de résidents qui ne respectaient pas les consignes, en raison de propriétaires qui ne les prenaient pas au sérieux? Où est-ce qu'on a fait des erreurs?
Bien, c'est un ensemble des raisons que vous venez de mentionner. C'est certain que l'habitude dans certains CHSLD privés, même publics, dans certaines résidences, c'est d'avoir beaucoup de personnel qu'elle est dans plusieurs résidences. Donc, beaucoup de temps partiel et parfois aussi pas assez de personnel. C'est pour ça qu'on a ajouté des ressources. Évidemment, d'ajouter de l'argent, ça ne règle pas tout. Il y a des postes qui sont affichés, qui ne sont pas comblés. Donc, c'est pour ça, là, aujourd'hui, qu'on prend les grands moyens pour dire on va prendre du personnel qui actuellement est dans les hôpitaux, donc des infirmières et des médecins, puis on va les envoyer dans les résidences. D'abord, pour être certain qu'on a tout le personnel. Ensuite, s'assurer qu'il y a moins de rotation du personnel, que toutes les normes, les consignes soient respectées, entre autres qu'on sépare comme il faut les zones chaudes des zones froides, et que les sorties et les entrées soient plus que jamais contrôlées, toutes les portes d'urgence, là, qu'on puisse être capable d'éviter qu'il y ait des gens qui entrent et sortent de ces résidences. Donc, je ne pense pas que ça soit unique au Québec. On voit le même genre de problème un petit peu partout dans les autres États. C'est un peu normal là, que ces personnes-là soient plus vulnérables. Ils sont plus nombreuses, évidemment, que les personnes dans une maison. Donc, il y a un plus grand risque de contagion, mais je peux vous dire là qu'on a pris les grands moyens pour tout faire protéger les personnes aînées. Puis, c'est important de le dire, là, il y a peut-être 700 résidences là, qui ont peut-être une contamination, mais il y en a à peu près juste 150 où c'est confirmé. Là. Les autres, c'est qu'on prend pour acquis qu'il y a peut-être un problème. Là. Donc, on est en train de bien répartir les cas, s'assurer qu'il y a une bonne direction dans chacun de ces établissements, s'assurer que s'ils ne trouvent pas le personnel, c'est même nécessaire d'envoyer des gens qui n'ont pas toutes les qualifications, bien, c'est mieux que de manquer de personnel. Donc, il y a du travail. On savait que même avant la crise du coronavirus, il y avait déjà un problème de personnel dans les CHSLD, dans certaines résidences privées. Bon, vous avez vu, on a augmenté le salaire des préposés de 4 $ de l'heure payés par le gouvernement dans les résidences privées. Donc, on fait des efforts, mais c'est pas encore assez. Il faut en faire encore plus parce que c'est là qu'il doit être, qu'elle doit être notre priorité. Oui.
Moi, je viens de parler au président directeur général de l'ensemble des établissements du Québec, là, il y a à peu près une heure. Là. Et c'est une grande, grande priorité. On va envoyer du renfort. On le fait déjà. On envoie du renfort. On veut aussi qu'il y ait des infirmières en prévention des infections qui soient sur place parce qu'il faut organiser ces milieux-là de façon sécuritaire. C'est ce qu'on est en train de faire également. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde est à pied d'œuvre à partir de maintenant, là, c'est déjà commencé, pour continuer là, de renforcer toutes nos interventions dans ces milieux-là et de les organiser de façon sécuritaire. Puis je lance l'appel. S'il y a des infirmières en prévention des infections qui sont à la retraite, là, qui voudraient venir nous aider, venez nous aider. On a besoin de vous. L'autre chose que je veux vous dire aussi, c'est que les médecins de famille. Moi, j'ai parlé au président de la FMSQ, de la FMOQ, pardon, hier, et il me dit que les médecins de famille sont prêts à vraiment venir aider au niveau des CHSLD. Alors, il y a beaucoup de monde là, qui lève la main et on va vraiment apporter du renfort nécessaire dans les CHSLD. Puis on n'oublie pas les résidences privées, les RPA, hein, les résidences personnes âgées, les ressources intermédiaires également. Donc, et les CHSLD privés, on a donné, Mme Blais a annoncé 133 millions. On va les aider à trouver le personnel. Il faut ajouter du personnel aussi. On est en lien avec eux par le maintien à domicile et on va renforcer nos actions pour soutenir nos partenaires.
Rapidement, sous question.
Oui, M. Legault, vous ne serez pas au brefage technique au sujet des scénarios. Pourquoi cette absence?
Bien, je pense que c'est important que la population voit que c'est un scénario qui n'est pas politique, c'est un scénario qui est fait par des scientifiques, par des experts. Donc, en toute transparence, là, ce sont les experts qui vont présenter le scénario puis répondre à vos questions.
Merci. Maintenant, au tour d'Alain Laforêt, TVA Nouvelles.
Bonjour. Je veux revenir sur les CHSLD. Est-ce que c'est possible, Dr Arruda, d'avoir un portrait précis? C'est toujours triste de parler de décès. Il y en a 150. Est-ce que c'est principalement des gens qui proviennent des CHSLD, des résidences pour aînés, les tranches d'âge aussi, là? Est-ce que ce sont des gens de 80 ans et plus? Est-ce qu'on a des gens qui sont... C'est assez difficile d'avoir des chiffres, là, et de pouvoir se faire une idée, s'il vous plaît.
Oui, je vais vous le dire. Bon, par rapport au milieu, on parle des décès. Hein? Je ne parle pas de tous les cas, je parle des décès. Il y en a 26,7% qui proviennent des domiciles, donc des gens qui étaient à leur domicile, 44,7% qui viennent des CHSLD, 20% qui viennent des résidences pour personnes âgées, puis 13% qui sont inconnus parce que l'enquête est encore en cours par rapport aux données. On est en train de faire l'enquête pour rejoindre des choses. Donc, on voit que la majorité actuellement sont en CHSLD et à domicile, puis le RPA qui était... plus marqué au début, a chuté à 20 %. Bon, maintenant, du côté des âges, c'est encore véritablement, je vous dirais, 98 % des gens ont en haut de 70 ans. Donc, juste pour vous donner un exemple des nombres, 84 à 70 ans et plus, 61 80 ans et plus, puis 13 personnes de 90 ans et plus. Les 50-59 ans, il y a eu 2 personnes, puis il y a eu une personne, vous savez, on en a parlé, entre 30 et 39 ans. Donc, c'est vraiment un profil encore malheureusement, ça ne veut pas dire que les gens autres ne font pas la maladie. Hein. Si vous regardez, là, les jeunes font la maladie, mais n'ont pas les complications, ils ne sont pas les décès. C'est pour ça qu'on fait autant d'énergie auprès des milieux où vivent ces personnes-là. Il faut comprendre, si vous me permettez, un milieu où vivent les gens, ce n'est pas un milieu qui est complètement hermétique. Hein. Il y a eu au début l'effet des voyages qui est allé par des gens de la famille qui sont rentrés, etc. Il y a eu aussi des gens qui sont sortis. Hein. C'est un mélange de facteurs. Puis c'est assez rare que c'est complètement hermétique. À chaque saison, on a de la grippe dans les centres d'accueil parce qu'il y a un mouvement. C'est pas fermé sur la communauté. Puis à chaque saison, il y a des gastro aussi. Hein. Vous voyez, là, quelque part. Mais là, c'est pour ça qu'on est très, très restrictif maintenant pour justement éviter ça. Et puis la réorganisation, je vous dirais, du personnel pour éviter que d'un centre, ça aille à un autre, parce que ça arrivait même dans des gastro à chaque année, ça va être repris en compte actuellement.
On sent actuellement là, que le problème, c'est vraiment les résidences personnes âgées, les CHSLD. À Laval, il y a 105 résidents là, qui sont testés positifs, qui ont des problèmes dans une résidence. Il y a eu plusieurs décès dans une même résidence. Est-ce qu'on a sous-estimé l'entrée du virus dans ces résidences-là et qu'on n'a pas agi assez rapidement il y a deux semaines?
Écoutez, est-ce qu'on a sous-estimé? On a toujours dit qu'on avait des préoccupations pour ces clientèles-là. Les protocoles, ils sont en place. Le problème, je pense, qui est un facteur qui est important, puis je veux dire très honnêtement, on va le regarder aussi en prospective, là, regarder chacune des éléments, puis chacune des histoires. Le fait que certaines personnes soient asymptomatiques ou très peu symptomatiques a fait que certains travailleurs de la santé qui avaient peut-être été infectés ont pu rentrer, ou quelqu'un de la famille. Fait que ça, je pense que c'est un facteur qui est très important. C'est cette, puis vous savez, cette notion-là d'asymptomatique ou asymptomatique, là, c'est quand même relativement récent. On ne parlait pas nécessairement de ça au début février. Il y a toujours une possibilité. Puis on ne sait pas jusqu'à quel point non plus elle est le drive, qu'on appelle le générateur de cas maximal, parce qu'on pense que quand tu es symptomatique, tu as plus de virus, tu en contamines plus. Mais c'est vraiment cette histoire-là de gens asymptomatiques ou peu symptomatiques. Puis, il y a pu avoir aussi, puis là, c'est des hypothèses, là, des travailleurs de la santé qui pensaient que c'était comme un petit rhume, puis que ça allait passer, puis pour pas manquer de travail, pour offrir leur service, compte tenu qu'il n'y a pas tant de personnel que ça, ils sont allés. Mais ça, je pense qu'il faut voir regarder. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce phénomène-là, il n'est pas seulement unique au Québec, il est partout. Bon, les protocoles sont là, les orientations ont été données. Bon, jusqu'à quel point, sur le terrain, on est capable de les appliquer, ça, c'est un autre enjeu. Puis c'est vrai, notamment dans les résidences pour personnes. Il n'y a pas des infirmières dans toutes les résidences pour personnes âgées. Il n'y a pas toujours d'infirmières en prévention et contrôle des infections. Puis qu'est-ce que vous voulez, quand ça rentre dans ces milieux-là, compte tenu de la haute susceptibilité, puis des types de soins qu'on donne aux gens, de la proximité, bien, ça s'installe. C'est comme une épidémie de gastro aussi, là, vous savez, il y en a chaque année, là, puis de la grippe aussi, malheureusement. Fait que je pense que votre question, elle est pertinente. On va la regarder pour mieux voir. Et je pense que, comme à chaque fois, je veux dire, peut-être qu'on va changer notre façon de penser les résidences pour personnes âgées dans l'avenir. Peut-être qu'on va changer le ratio de professionnels versus individus. Ça va être à voir.
Merci.
Moi, je vous dirais, M. Laforêt, là, que je n'ai pas l'impression qu'on a sous-estimé la situation dans les résidences personnes âgées, les CHSLD. Dès les premières rencontres, on s'est tout de suite dit que c'était là la priorité. On était parmi les premiers à interdire les visites. On a été parmi les premiers à ajouter des ressources. Puis il faut comprendre que les personnes qui sont dans les CHSLD sont déjà malades, donc sont plus vulnérables que d'autres personnes du même âge qui sont à la maison. Donc, il faut comprendre ça aussi, qu'on s'attendait à avoir quand même relativement beaucoup de décès dans ces résidences-là. Là où on a plutôt surestimé le problème, c'est dans les hôpitaux. Actuellement, on a beaucoup moins de gens hospitalisés dans les soins intensifs qu'on pensait. Donc, on prend ce personnel-là et on l'envoie dans les résidences de personnes âgées. Je pense que on fait les bons gestes au bon moment.
Et moi, j'ajouterais, M. le Premier ministre, que j'ai l'occasion de parler avec mes collègues d'à travers le Canada, les autres ministres de la Santé des provinces, et c'est le même phénomène partout. C'est le défi actuellement. Ça a été le défi depuis le début même. Alors, évidemment, faut prendre toutes les mesures qu'on prend et qu'on a prises depuis le début. Et on déplace effectivement du personnel du secteur hospitalier vers les CHSLD actuellement.
Merci. Je vous signale que le temps file. On va devoir donc accélérer. Olivier Bossé, Le Soleil.
Paris a décidé d'interdire le jogging à partir de demain de 10h à 19h. Est-ce que la santé publique du Québec recommande la même chose pour les grandes villes, dont Montréal, peut-être même Québec?
Écoutez, j'ose pas dire qu'est-ce qu'on va dire demain puis après-demain parce que les choses peuvent évoluer. Je pense qu'un des principes qu'on a dit, c'est la question de la distanciation sociale. C'est-à-dire que les gens joguent à 3-4 mètres les uns des autres, qui ne se rassemblent pas puis qui sont dans l'air, à l'extérieur, je pense que ça peut être adéquat. Moi, voyez-vous, là, dans la restriction des choses, il faut restreindre, à mon avis, des choses qui sont contributives à la maladie. Restreindre des rassemblements, c'est pas le temps à Pâques de faire un jambon aux ananas puis d'inviter sa belle-sœur, son beau-frère, même si on pense qu'ils sont fiables, c'est pas le temps de faire ces éléments-là. Mais quelqu'un qui a besoin de courir, qui court habituellement, si on lui prive d'aller courir, puis qu'il court dans une perspective où il n'est pas en train de se rassembler ailleurs, il n'est pas en train de se coller sur quelqu'un, il fait une heure, il n'y a pas trop de monde. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut être capable d'avoir ces soupapes-là, sinon les gens vont virer fous. Si on avait la démonstration que ça devient une mesure efficace, puis qu'il faut le faire, on verra, mais je ne pense pas qu'on en soit rendu ici. C'est la même chose quand le premier ministre parle de pas nécessairement faire de marche, il veut éviter les rassemblements. Mais si quelqu'un marche avec sa conjointe, avec qui ils vivent dans la même maison, et puis qu'ils marchent, mais il faut garder cette distance sociale. Là, j'ai même vu dans une vidéo, je ne sais pas si vous avez vu ça à la télévision, là, quelqu'un qui avait autour de lui qui courait comme jogging, puis il avait mis 2 mètres de fil de chaque côté avec une suspension. Là, puis là, quand il court, il n'y a personne qui peut s'approcher de 2 mètres. Bien, c'était ingénieux, mais c'était ça le principe. Ça démontrait c'est quoi la distance qu'on doit maintenir autour de nous pour ne pas être contaminé. Moi, je pense que tant que ce principe-là est fait, puis qu'on ne se rassemble pas, puis qu'on n'est pas malade non plus, parce que si jamais vous êtes malade, puis si vous voulez courir de même pour aller à l'hôpital, mettez-vous un masque pour protéger les autres. Là, mais moi, je pense que c'est ça qu'on est rendu. Là, pourquoi ils ont fermé en France le jogging? C'est une question de densité? C'est parce que le monde se rassemblait? Je ne peux pas vous le dire. Mais actuellement, on a déjà dit, par contre, que c'était évalué, d'éviter d'aller courir dans des quartiers où il y a de la contamination, puis n'allez pas trop loin de chez vous, ça peut être une chose, mais en même temps, si vous ne rencontrez pas personne, comprenez-vous, le virus, ce n'est pas dans les villes, dans les airs, là, puis dans l'environnement. Moi, je pense que c'est ça mon explication.
Merci, puis, rapidement. Je pense que si vous respectez ça... Alors, ça ne sera pas le temps de faire un jambon aux ananas, puis d'inviter la famille.
Même s'ils sont fiables.
Ah, celle-là, on va en entendre parler pendant une couple de jours avec quelques caricatures en prime. Donc, c'était Horacio Arruda. Il n'y a pas l'intention, visiblement, d'interdire le jogging là, pour le moment. Mais bon, il dit, je peux pas présumer de ce qu'on va décider demain, mais on sent que ça s'en va pas vers ça. Julie-Christine, merci beaucoup, encore une fois. On continue, évidemment, de suivre ce point de presse. C'est vous, Julie-Christine, qui avez le mandat, la mission. Nous, on va s'arrêter parce qu'au retour, on va mettre un peu de positif là-dedans, là. Parce que, on le sait, on a des inquiétudes au niveau de l'économie. Et un de nos meilleurs économistes, Pierre Fortin, va venir nous dire, on va finir par s'en sortir. Notre économie va passer au travers dans un instant.